Les cours du Collège de France.
Bonjour, merci à tous d'être venus. C'est mon troisième cours au Collège de France cette année. Et, pour l'organisation, je vais faire le cours jusqu'à à peu près la fin d'avril. Et on fait une pause à cause des ponts du mois de mai. Et on recommence la fin du mois de mai jusqu'à la fin de juin. Voilà. Et puis le cours aura lieu les vendredis à 2h. Et sera suivi d'un séminaire à 3h30. Et le séminaire se porte surtout sur la théorie des géométriques, des représentations. Quant à mon cours, en fait, je reviens un peu au sujet du premier cours sur la figure de Hitchin. Mais cette fois-ci, j'essaie de mettre en place un formalisme pour comprendre les interorbitales plus générales que les interorbitales dans l'algèbre de Lie. Donc il s'agit beaucoup de la géométrie, la théorie des invariants géométriques, ce qu'il faut mettre en place pour construire une infibration, pour comprendre une infibration. Voilà. Et donc il y a une partie qui est vraiment largement connue, la théorie des invariants de Hilbert, de Mumford, etc. Mais il y a une partie qui est un peu nouvelle, en fait. C'est un peu surprenant ce que les gens n'ont pas étudié avant, mais qui est, donc et puis le, en fait, il y a très peu d'énoncés nouveaux que j'arrive à démontrer en général, mais comme il y a des exemples particuliers qui sont assez jolis, donc c'est de quoi je vais parler. Donc, je commence par rappeler des interorbitales qu'on a souvent l'affaire en analyse harmonique. En analyse harmonique, sur les hauts réductifs périodiques, on a souvent l'affaire en intégrant de la forme, donc en intégrant O gamma F sera en intégrale de F G moins 1 gamma G où ici F où gamma est dans un élément de GF, surtout les éléments réguliers semi-simples. Et F, a priori, c'est une fonction lisse, un support compact dans G de F. Donc, on s'intéresse surtout à des fonctions F dans l'algèbre de Hecker. Donc, ce sont des fonctions support compact sur G de F, qui sont invariantes à gauche et à droite par le G de O. Pour la mesure, il faut choisir une mesure DG, une mesure invariante sur G de F. Donc souvent on prend la évidence, celle qui est évidente, c'est celle qui donne le volume 1 à G de O. Donc, il est souvent plus subtil de choisir la mesure sur le centralisateur. On va supposer qu'on en a un. Donc souvent c'est un tort. Dans le cas, les gamma sont des éléments fortement régulés semi-simples. Le centralisateur est un tort. Donc là aussi l'affaire des intégrales dans l'algèbre de Lie. Algébrique. On a aussi l'intégrale à peu près la même formule, mais au lieu de conjugaison, on a la forme adjointe. Donc ici, de nouveau gamma qui est un élément de l'algèbre de Lie qui est régulier semi-simple. Donc, à la différence de cas de groupe, en algèbre de Lie, il n'y a pas de distinction entre le régulier semi-simple et fortement régulier semi-simple, sinon le régulier semi-simple, son centralisateur est un tore. Et ici, souvent, on prend F, c'est la forme caractéristique des hauts points de l'algèbre de Lie. Donc, il convient de considérer une situation plus générale. En fait, on peut considérer une même entre complètement générale. Donc, au lieu de l'axiome par conjugaison de G sur lui-même, ou l'axiome adjointe de G sur l'algèbre de Lie, on peut prendre n'importe quelle action. Donc, on prend le. Un groupe réductif, un schéma en groupe réductif. On pourra lâcher des hypothèses après, mais pour l'instant, on prend un groupe réductif sur O. Donc, et puis M, un schéma affine de T fini sur O. Peut-être on va prendre des schémas plats, peut-être plats. Et puis avec l'ensemble de G. Pour n'importe quel élément dans gamma dans M de F, régulier semi-simple. Je vais préciser après que ça veut dire régulier semi-simple dans ce contexte général. On peut considérer la même intégrale, donc on peut l'intégrale de n'importe quelle une fonction f. Donc il faut discuter de quel genre de fonction qu'on va prendre, mais pour l'instant on peut prendre la fonction caractéristique de m de O. Et on peut parfaitement considérer l'intégrale. L'intégrale de f de g gamma dg sur dg gamma de gf sur g gamma de f. Donc, sous l'hypothèse que la gamma est régulier semi-simple, l'orbite va être fermée, donc l'intégrale en question sera convergente. Il n'y a pas de problème de convergence pour les éléments réguliers semi-simples. Donc les cas typiques, c'est des qui ressemblent assez à ces cas-là. C'est des cas d'exemple. Bien sûr, c'est des espaces symétriques. De variété sphérique ou de produit de variété sphérique. Donc, qui ressemble vraiment au premier cas que je considère, mais il y a des cas qui s'éloignent un peu, mais qui sont peut-être pas qui sont intéressants d'autres points de vue. Ils n'apparaissent pas forcément dans l'analyse harmonique visuelle, mais c'est vraiment intéressant. C'est des variétés commutantes. Par exemple, la variété des paires d'éléments d'un jeu de Lie qui se commutent. Donc, avec l'action diagonale, on pourrait considérer aussi la même question. Ils ont d'autres intérêts. Par exemple, la variété commutante, ça apparaît dans la fibre de Hitchin pour des variétés de dimension supérieure à 1. Donc, la variété commutante apparaît vraiment naturellement, donc il faut les considérer. Donc avant de commencer, j'appelle que complètement similaire au cas usuel avec l'intégrale orbitale dans le groupe, dans le jeu de Lie, en général il y a cette notion d'intégrale stable. Donc on a gamma et gamma prime. deux éléments de MF qui sont conjugués sous un élément dans G de F bar. Donc, régulier semi-simple. Et tel qu'il existe, G dans G de F bar qui transporte gamma en gamma prime. Donc ça, c'est la conjugaison stable. Et on pourrait définir un cocycle. Donc quand il y a deux éléments qui sont stablement conjugués, mais pas nécessairement conjugués sous l'ensemble de GDF, on peut définir un invariant homologique en écrivant le cocycle évident qui s'échoue dans le groupe de commutations galoisiennes de F dans le centralisateur. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des un tore, un groupe réductif, donc ça, ça va être un groupe fini. Il se trouve d'être un groupe fini. Donc, souvent, c'est un sous-groupe de celui-ci, mais on va ignorer tous ces petits problèmes. Donc, on aura l'intégrale en bit instable, qui est une définition évidente. Donc, la somme de tous les gamma primes qui sont stablement conjugués à gamma. Donc l'intégrale orbitale de gamma prime de f dg gamma. Donc ici, il y a un point un peu, il faut travailler, c'est de mettre des mesures sur son accélérateur qui sont adaptées, qui sont uniformes. Mais dans le cas des tores, par exemple, tous les extrêmes sont isomorphes. Donc il y en a une qui, c'est évident comment ça marche. Et puis on peut aussi définir les intervalles en bien kappa intervalle orbital. Pas la même définition, sur les mêmes sommes. Donc ça c'est un ensemble fini, un sous-groupe de ce groupe-là. Donc un kappa de chaque fois qu'on a un caractère kappa de ce groupe fini. Là. Donc là, c'est des objets qui après nous intéressent. Ce qu'on va chercher, c'est chercher de comprendre ces objets géométriquement. Et aujourd'hui, je vais un peu ébaucher une sorte de programme un peu général, et puis les points vont être développés dans les cours suivants. Donc d'abord, j'aime bien préciser ce que je vous dis par régulière semi-simple dans ce contexte général. Donc on a on va se placer dans un peu plus simple que G, c'est un groupe réductif défini sur un corps K, donc je vais supplier algébriquement clos. Pour ce que je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et M, un schéma affine de T fini sur K. Bon, à un moment donné, on va supposer que ce soit normal, il y aurait du type, etc. Donc, quand tout n'est pas encore ficelé, je ne sais pas exactement quand il faut mettre des hypothèses, quand est-ce que ce n'est pas la peine. Donc, elles sont ici, comme ça. Et dans des situations, de façon classique, ça remonte à Hindberg. On peut définir le quotient au sens des invariants. En fait, l'un des points de départ, c'est qu'avec une telle notion, on peut définir tout sur le quotient. Donc, d'abord, c'est le quotient le plus historique, c'est le quotient au sens des invariants. Donc, ça, c'est notre M, mode G. Donc, c'est le schéma affine défini comme le spectre des fonctions invariants. Donc, des éléments invariants dans l'anneau de coordonnées de M. Donc, d'après le terme de Hindberg ou Force, c'est sous l'hypothèse K, un groupe réductif. Donc ça, c'est une K-algèbre de T fini. C'est un terme dû à Hindbert, Mumford. Ça m'a un participé aussi. Ça découle de la conjoncture de Mumford et c'est un terme de Habouche. Voilà. Et l'information la plus de base concède ce quotient, donc on a ce morphisme quotient, disons, j'appelle ce quotient A. Donc on a ce morphisme quotient P de M à 1. Alors, induit, donc ce morphisme quotient. Induit une bijection entre l'ensemble des orbites fermées de G dans M et l'ensemble de K points du quotient. Donc c'est un cas injectivement clos, sinon on fait des orbites fermées et des points fermés, ça marche aussi. Et donc ça vient tout dans le même pool que ce théorème, ça se démontre ensemble. On a cet énoncé, donc on pourrait bien appeler des orbites fermées, mais pour l'analogie avec des cas de l'axiome de conjugaison, de l'axiome adjointe, on va ce qu'on va trouver ces synonymes. Orbite semi-simple. Orbite semi-simple, ça veut dire orbite fermée. Donc on a ça induit une bijection entre les orbites semi-simples sur un corps injectivement clos. Ce n'est pas vrai pour un corps quincampe à cause de ce problème de cohomologie galoisienne. Mais sur un corps injectivement clos, c'est les orbites fermées, ça correspond au point du quotient. Complètement comme dans le cas de l'axiome adjointe ou l'axiome conjugaison, on va appeler un gamma dans M est régulier si l'orbite passant par gamma et de dimension maximale. Donc ici, en caractéristique P, on doit faire quelque chose d'un peu plus subtil que juste dimension, donc quelque chose sur les conditions différentielles. Mais dans le caractéristique 0, on peut se compter des dimensions maximales. Et donc ici, en fait, il y a une hypothèse vraiment simple. Qui fait que la théorie marche à peu près comme une généralisation de l'axiome adjointe. Et c'est une hypothèse de. C'est une hypothèse qu'on va accepter une fois pour toutes. C'est une hypothèse de Richardson, de Luna Richardson. C'est qu'il existe une orbite régulière semi-simple. Donc le point, c'est qu'en fait, une fois qu'il existe une orbite régulière semi-simple, les choses devaient marcher à peu près comme dans le cas de l'axiome adjointe. Donc, quel est l'exemple d'une action qui n'a pas d'orbite?
GM sur A.
Oui, c'est ça, dans GM, l'action de. Donc, contre-exemple. Donc, l'action homothétie de GM sur AN, donc homothétie, elle ne satisfait pas. à l'hypothèse de Luna Richardson. Donc là, il y a une seule orbite fermée, c'est le point zéro. Et toutes les autres orbites sont régulières, mais ne sont pas fermées. Voilà. Toutes les orbites. Oui. Donc ici, donc, il y a un théorème de... Luna Richardson, dans cet article, il démontre, en fait, sous cette hypothèse essentiellement, qu'il y a une génération de théorème chevalet. Ça marque à peu près pareil. Théoriquement, le calcul peut être plus compliqué. Mais au moins, le point de départ, c'est la suivante. Donc, je pense à là, le cours, je vais essayer de revenir sur ce théorème, qui est quand même assez simple, assez génial, en fait. Soit G adjoint sur M comme ci-dessus. Donc, G est réductif et M est affine. Et supposons qu'il existe une orbite régulière et semi-simple. Alors, en fait, il existe un ouvert. Alors, il existe un ouvert dense qu'il appelle l'ouvert principal. Donc, souvent, c'est une orbite régulière semi-simple de M. Ou invariant sous G. Telles que toutes les orbites dans lesquelles toutes les orbites sont régulières semi-simples. Et tel que toutes les orbites et tous les stabilisateurs appartiennent à une classe de conjugaison, à la classe de conjugaison d'un sous-groupe réductif. H de G fixé. Donc là, toutes les orbites ressemblent à G sur H. Oui. Oui, M réductible. Donc ici, en fait, il utilise l'hypothèse que K. Donc ici, l'hypothèse, c'est caractéristique de K est 0. Parce que ça, c'est essentiellement une reformulation du théorème de Slice de Luna. Ou impliqué par le théorème de Slice de Luna. Et puis en caractéristique P, je pense que ça marche aussi si on suppose que le stabilisateur est un tore. Le théorème de Slice de Luna marche pour les tores. Donc caractéristique P. Et cela devait marcher. Il faut que je travaille pour être sûr que ça marche. Mais il y a très peu de doutes. On doit autoriser H ne pas être connexe, quelque chose comme ça, mais ça n'a pas de... Voilà. Donc on a... c'est vraiment bien lorsqu'il y a une seule orbite régulière semi-simple. On aura une situation qui ressemble beaucoup déjà au cas de la commande adjointe. Et ensuite, ils ont démontré que la suite, donc il existe un ouvert dense, un principal du quotient. Donc on a ce diagramme, donc M sur 1, donc on a l'ouvert des. Donc c'est l'image de la partie principale, c'est une ouverture du quotient 1. Donc là-dessus, toutes les fibres sont des orbites, n'est-ce pas, homogènes. Elles sont toutes les mêmes, de sorte c'est des gémeaux divisés par H. Et bien sûr, mais la H, c'est des sous-groupes qui sont dans les classes de conjugaison d'un groupe donné. Donc, une fois qu'on a ceci, on pourrait donner une interprétation géométrique.
Interprétation géométrique.
Pardon ? Et qui est plus gros, d'accord, je vais essayer.
Des intégrales.
Orbite instable. Donc, par ailleurs, ici, je me restreins au carré ou les semi-simples, et la question se pose pour d'autres orbites. Par exemple, dans le cas. Pour les autres orbites, ce n'est pas clair que c'est convergente. Dans le cas de groupe, je me dis c'est un théorème. C'est difficile que en cas de test X0, les orbites unipotents sont convergentes. Et en cas de test XP, c'est même pas vrai. Mais donc, je pense que dans le cas général, ça peut être intéressant d'étudier aussi. Donc on revient à F, un corps local. Non archimédien. O, son anneau des entiers. G, c'est un groupe. G sur O, c'est un schéma en groupe lisse. Lisse affine. De T fini, de fibre générique réductible. Enfin, on n'a pas besoin que la fibre spéciale soit réductive, on a juste besoin que le groupe fibre générique soit réductif. Et M sur O, c'est un schéma affine de type T fini. Peut-être plat. Si on enlève toutes les torsions sur lequel avec l'action de G. Donc on avait cet intervalle orbital. Donc c'est gamma dans MF, verrouillé semi-simple. Et F, une fonction sur M de F. Donc souvent on va prendre F égale à la parenthèse de MO. Et je vais discuter quand est-ce qu'on peut, comment on peut considérer d'autres fonctions aussi. Et donc on a l'intervalle orbital de G-1 peut-être. Donc il est convergente. Sauf pour l'hypothèse que gamma est régulier semi-simple. Et de même, on peut considérer l'intervalle orbite instable. Un ensemble fini, parce que de nouveau on prend les. sur un sous-ensemble de H1 d'un groupe réductif, souvent un tore, donc c'est tout fini. Donc ici, d'abord, on remarque pour donc gamma, c'est un élément de M de F, d'image M est dans M, c'est partie principale de F, la partie régulée semi-simple, donc on voit dans A qui est dans la partie principale de F, et pour que l'intégrale soit non nulle, il est nécessaire que A est en fait un haut point de A. Parce que donc G moins 1 de gamma ici, donc ici dans le cas de cette fonction-là, parce que G moins 1 de gamma est dans M de O, et le morphisme conservé est à une variante, donc A est un. Parce que A est aussi l'image de G moins 1 de gamma. Donc, il faut d'abord commencer par, pour que le problème ait un sens, on doit prendre un point dans A de O, intersecté avec A régulé semi-simple de F. Donc, ça, c'est le point de départ. Et on peut avoir la formule suivante, donc l'intégrale orbitale de cette fonction. Et la même chose que la masse, dans un certain sens, du groupe 8, M sur G1, de O. Ici, on a d'autres quotients. Ici, c'est le quotient au sens des champs. Au quotient catégorique. Donc, il s'agit des. Finalement. Donc ici M de G donc c'est une somme sur les aimants de M de G de A qui sont au-dessus du point A dans A de O. Donc une fois ici on a et puis donc on prend la classe d'isomorphisme. Et on prend 1 sur le volume. Donc, au lieu de prendre la cardinalité, ici, sont des localement compacts, on va prendre l'automorphisme de M. Par rapport à la mesure qu'on a fixée. Donc, ici, je pense que c'est prudent de supposer que le sous-groupe principal soit un tore. Pour l'autre cas, c'est un peu plus compliqué de fixer la mesure. Donc ici, remarquons qu'on a donc, quand on a ce donc on a G sur A sur M, donc on a le quotient au sens des invariants, mais on a aussi un quotient au sens des groupes poïtes. Et on a bien sûr ce morphisme de ce quotient-là vers ce quotient-là. Et calculer les interorbitales, c'est plus ou moins de mesure un peu la différence. Il faut qu'on fixe un point dans le quotient invariant, quelle est la fibre et de la taille de la fibre, c'est les interorbitales stables qui nous intéressent. Donc voilà, c'est ça une interprétation. C'est tout. Par exemple, puisque A est régulé semi-simple, donc tout ce qui apparaît, c'est des gamma qui s'envoient sur A. Donc ils sont conjugués sur G de F bar, donc ils sont simplement conjugués. Et là, essaye simplement d'écrire des formules, c'est ce qu'il faut trouver. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de rappeler ce qu'on peut faire dans le cas du film de Hitchin, où G, c'est un groupe réductif, M, c'est son algèbre de Lie. Et ensuite, je vais revenir à quel genre de structure qu'on doit mettre en place pour comprendre ce genre de choses. Donc, dans le cas où G, dans le cas où M est l'algèbre de Lie de G, c'était la forme ici dans l'interprétation. Géométrique des intervalles bilan stables. Donc il s'agit, donc on a G sur G, son voie sur G, mode mode G. Donc ici on se donne un morphisme de spectre de O dans ce quotient, ce bas de chevalet, donc un morphisme A, tel que si on voit le point générique du disque formé dans le lieu régulier semi-simple, et il s'agit de compter les relèvements de cette flèche. Je dois rappeler que dans le cas, ce n'est pas exactement l'interprétation usuelle géométrique. L'interprétation usuelle est basée sur un truc un peu légèrement différent. Il s'agit des fibres de Springer affine, qui est légèrement différente. Ce n'est pas un truc champêtre comme ceci, mais c'est vraiment une variété. Donc on a donné un élément gamma dans G de F régulier semi-simple, et on a la fibre de Springer affine sur l'ensemble de G dans sur G de O donc là il s'agit d'une donc une fonctorienne, c'est un schéma, mais une fois qu'on enlève des impotences avec quelque chose localement type fini, en dimension finie. Le lien entre, mettre une notation ici, donc en fait, il vaut mieux que j'appelle ça avec un M droit. Et ici, le MA ici, c'est le groupe 8 de ces flèches. Et il se trouve qu'en fait, on a une M gamma s'envoie dans ce MA. Et c'est une espèce de. C'est un torseur sous certains groupes. Donc il y a une action. Il y a une action de groupe. On appelle l'action de Picard, qui est juste la fibre de Springer affine, dont le quotient, c'est le. C'est le M rond qu'on avait considéré avant. Donc je vais développer après. Mais il y a un objet qui est une variété, fils de Springer affine. Il y a un objet qui est un champ. Et là, le lien est un. Et c'est le quotient par l'ensemble de groupes de P que je vais définir après. Mais la façon qu'on peut pour étudier le fil de spirale fine, c'est en fait c'est de les mettre dans une structure globale. Donc l'analogue global
global
de ce M ou ce M rond et
sont les fibres Hitchines. Ce sont des fibres de la fibration de Hitchin.
Donc je rappelle maintenant maintenant X
est une courbe projectif et lisse.
Sur le corps K et j'ai un groupe inductif supposons faire des fissures K et l'espace de module M l'espace en fait c'est le champ de module des fibres de X donc consiste à les donc c'est le groupoïde des paires E et phi où E est un fibré principal un G fibré sur X et phi est une section globale du fibre adjointe tordue par par un fibre vectoriel, par un fibre en droite. Donc à l'origine c'était le fibre canonique de X, mais pour notre considération que les fibres canoniques ne jouent pas de rôle. Donc ça dépend de ce N. Après le module dépend de N si on veut. Et on pourrait parfaitement imiter le cas local et on voit que ML est en fait le champ classifiant des morphismes de X vers le quotient de G divisé par G et donc ça c'est le champ de quotient et qu'on a tordu par N. Donc, autrement dit, on pourrait écrire comme ça. On commence par le fibre trivial de valeur, la géométrie de G. On le torte par le fibre en droite donné par N et on divise par G. Donc ça, c'est l'espace de section de ce champ. Et c'est la fibre de Hitchin. Et maintenant, on a... quand on a un morphisme du champ quotient vers le quotient au centre de théorie invariant, comme tout à l'heure, on a induit un morphisme, c'est le morphisme de Hitchin. Donc la base, c'est les morphismes de X vers ce Gn sur G. Et comme on sait que G sur G, c'est par le terme de Chevalet, on sait que G sur G, c'est la même chose que T sur W, où T, c'est un algèbre de Cartan, et W, c'est le groupe de Weyl, et c'est isomorphe un espace affine, dimension N, le rang de groupe, et l'axiome de GM sur G sur G, et induit une action sur cet espace affine donné par les exposants, donc T agissant sur A1, AN, et T D1, A1, T, DN, AN, où les exposants D1, DN peuvent se lire sur le système de racines. Donc du coup, ici, c'est vraiment un espace vectoriel, ce n'est plus du tout c'est la somme de l'espace de section de x à la puissance n dx. Un A, un N. Voilà. Donc c'est ça on peut voir le film de Hitchin, c'est en quelque sorte d'évaluer ce morphisme du quotient champêtre vers le quotient invariant. On l'évalue sur la courbe. Et ça nous donne le film de Hitchin. Donc, alors, pourquoi c'est... qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc ici, ça paraît plus facile quand on évalue sur le disque formel. Et quel est l'intérêt de considérer le problème? Qu'on remplace le disque formel par une courbe. C'est parce qu'en fait, on a dans le cas où N est le fibre canonique, Hitchin a montré qu'en fait, d'abord, ça c'est une fois qu'on passe du champ aux variétés, c'est des variétés symplectiques. Et ceci, c'est un complément intégral. Donc la base, c'est dimension moitié. Et les fibres, il y a des actions hamiltoniens. Et enfin, géométriquement, on dit que la fibre générique est essentiellement une variété abélienne. Mais il y a une façon de, sans passer par géométrie symplectique, de comprendre les fibres. Et en fait, il y a un ensemble de groupes. C'est de là, c'est le point qu'on voudrait généraliser, c'est l'ensemble de groupes. L'ensemble de groupes sur les fibres de Hitchin. Et sur les fibres de Springer affine. Alors ça, pour ça, je reviens vraiment, ça n'a plus rien à voir avec ni la courbe, ni le disque formel. On revient vraiment à la géométrie invariante. Donc on a ce morphisme de G vers ce quotient invariant comme A gothique. Donc ça, c'est le morphisme quotient P. Et on a la partie régulière, donc les orbites régulières forment une overdense de G. Et on sait que la restriction de P à la partie régulière, P restreint à G régulier vers A, est un morphisme lisse. Et donc les orbites et donc les fibres sont des espaces homogènes sous l'action adjointe. Donc autrement dit, ici, vous voyez, quand on prend un point dans la fibre, dans la fibre du morphisme de pointe caractéristique, il y a une seule classe semi-simple. Donc ça, c'est le terme général de... C'est une conséquence du théorème général de Hindberg-Mumford. Mais aussi, il y a une seule orbite régulière. Donc ça, c'est une propriété très spéciale à cette situation. Donc il y a, en quelque sorte, il y a une bijection entre les orbites régulières et les orbites semi-simples dans ce cas-ci. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre les centralisateurs. Donc j'appelle I sur G, c'est le schéma en groupe des centralisateurs. Donc c'est un schéma en groupe qui est vraiment moche parce qu'il n'est pas plat, mais au-dessus de G rec, il est lisse, il est plat et lisse. Et c'était une remarque élémentaire, mais en fait importante, au fait que Y, il existe un. Que Y est des centres à A. Donc il existe un unique schéma en groupe, lisse, J sur 1, sur le quotient chevalet, muni d'un isomorphisme. G équivariant entre le P rect, l'autre ça P rect, l'image réciproque de J et Y, la restriction du centralisateur à la partie régulière, dont sa descente est en plus, ça se prolonge. On a homomorphisme de groupe. Ça veut dire qu'on a P, J s'envoie dans I. Donc le centralisateur généralement régulier ne dépend que de son point caractéristique. De façon... Et ensuite, on a une flèche canonique du centralisateur régulier au vrai centralisateur. Et tout se met en famille gentiment. Cela nous permet de reconsidérer la géométrie invariante ici sous un jour différent. Donc on a cette base 1, la base de Chevalier. On a donc ça c'est G, un jet de lit divisé par G, mode. Et puis là on a le quotient au sens de groupe 8. Et là, on a l'autre quotient. On a la partie ouverte, la partie régulière. Et on a introduit un objet nouveau qui en quelque sorte qui gouverne un peu la situation, c'est ce centralisateur régulier. Donc je mets en groupe lisse. Et la formulation, je disais, sur l'image inverse de J sur J-R, c'est le centralisateur, c'est le centralisateur I. Et cet isomorphisme, ça peut être continué sur le peut être étendu sur tout le G, ça revient à dire qu'on a une action simplement transitive de B et de J, donc c'est le classifiant de J sur G rep J. Donc, autrement dit, ce quotient est une gerbe sur A qui est liée par ce groupe commutatif. Et souvent, donc là, le commutatif, ça joue un rôle, parce que ça joue un rôle important ici, parce que sinon, le lien n'est pas un groupe, mais c'est simplement un lien. C'est un groupe qui définit automorphisme intérieur près. Et en plus, cette action, on a de B et de J sur les mots G. Voilà, donc tout cela nous donne Donc on a ici le MA et donc on a aussi le P. J'enlève le N parce que le N est fixé. Donc P c'est P au-dessus de A, c'est simplement l'ensemble des flèches de X dans BJ de A. Donc BJ au-dessus de A. Donc ça c'est A. Donc par simplement parce qu'il s'agit simplement d'évaluation de cette action sur évaluation sur X, sur le groupe X, nous donne une action relative de P sur M. Donc autrement dit, pour toute A dans la base Hitchin A, on a une action de ce champ de Picard, PA sur MA. Et pour là, il y a des arguments géométriques, donc là c'est essentiellement catégorique, il y a théorie des invariants, mais là il y a des arguments géométriques qui disent qu'il existe un ouvert, ouvert transversal avec un carreau ici, tel que supposons que le fibre en droite est de degré assez positif, alors PA agit simplement transitivement sur M de A. Donc, dans ce cas-là, les FIP, ces FIP et NX sont essentiellement un groupe, ce n'est pas vraiment un groupe, et dans ce cas-là, le groupe est essentiellement un schéma abélien. Donc, si, ça veut dire que si on ignore le groupe inertie, si on ignore les composants connexes, c'est une variété abélienne. Donc, ça, c'est le. Une autre façon de démontrer le théorème de Hitchin en se basant sur la géométrie des invariants. Donc, et qui fait apparaître évidemment un ensemble de groupes. Et en plus, la même histoire, la même construction marche. Localement donc on a les quand on prend une fibre quelconque qui n'est pas dans le lieu régulier semi-simple la fibre de Hitchin est singulière et en fait il est pour comprendre c'est la meilleure façon de comprendre c'est le via son lien avec les fibres de Springer. Et la façon la plus laconique de dire, c'est qu'on a une formule de produit qui dit que de MA, une fois qu'on divise par PA, ça devient quelque chose de purement local. Et ce n'est pas un isomorphisme, mais c'est un homéomorphisme universel. Un product de produit de MA local. C'est les champs des flèches que j'ai introduits tout à l'heure. Voilà. Et puis le lien avec le Springer, il y a une structure importante ici qui est qu'on a, en plus, on a, les choses sont relativement simples. À s'exprimer parce qu'on a une section de ce morphisme, une section de constant. Donc en quelque sorte, cette gerbe est en fait une gerbe neutre, est neutralisée par une section de constant. Donc il faut noter que la section de constant n'est pas GMQ variante, donc ici, la classe est neutre, mais une fois qu'on l'a conservé par GM, il n'est plus neutre. Et quand on a fait les torsions avec la fibre en droite, il n'est pas toujours possible de construire une section de la fibre de Hitchin. Donc voilà, c'est le. Ok, je fais en aussi rapidement que possible comment on peut élucider la structure de la fibre de Hitchin. Grâce à cet ouvert régulier et la construction du centralisateur régulier. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imiter cette confiance générale. On va voir ce qui se passe. Donc maintenant, on revient au système général. Donc, on a G, un groupe réductif. Sur K, donc agissant sur M, dans un schéma affine. Et on a donc le morphisme P de M sur M de G qui induit une bisection entre les orbites fermées et les points fermés du quotient. Mais on a, bien sûr, on a aussi on a l'ouvert régulier. Je vais demander qu'est-ce qui se passe quand on restreint à l'ouvert régulier, quand c'est des orbites régulières. Donc, il se trouve qu'on a, on peut définir un quotient régulier que je note. C'est un troisième quotient qu'on peut introduire. Donc, c'est essentiellement l'ensemble des orbites régulières. Donc, c'est essentiellement. L'ensemble des orbites régulières. En fait, il y a un point de subtilité, il faut une donnée supplémentaire que je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais ignorons. Souvent, on n'a pas besoin de cette chose. Mais qui est un espace algébrique. Donc l'exemple le plus facile, c'est l'exemple de fonction hyperbolique. Comme si l'action de GM agit sur A2, où T de X1, X2 et T X1, T moins 1, X2. Donc ici, vous voyez le. Donc, il y a des orbites régulières semi-simples, c'est tous les hyperboles. Et puis il y a le morphisme invariant. Donc, c'est mon type 1-1 qui fait le produit des coordonnées. Donc la fibre en zéro consiste en trois orbites. Il y a une orbite fermée et deux orbites régulières. Dans ce cas-là, le MREF. MREC, donc ce quotient régulier, et ce, c'est d'autres affines qu'on a identifié en dehors de zéro. Voilà. Et il y a juste un problème ici. Donc pourquoi on a besoin de ce I? C'est parce que même en caractéristique zéro, si on prend l'orbite régulière, si on prend le centralisateur restreint en plus régulière, ce n'est pas forcément lisse, ce n'est pas forcément plat. Dans l'exemple typique, c'est dans l'axiome de PGN2 sur lui-même. Donc là, il y a une différence entre les éléments semi-simples réguliers et les éléments fortement semi-simples réguliers. Donc, il y a cet élément de 1-1 qui est semi-simple régulier, mais donc le centralisateur n'est même pas commutatif. Donc il y a le commutant note qui est commutatif, mais il y a le groupe de Weyl qui n'est pas commutatif. Donc même la partie régulière, il n'est pas commutatif. Donc en fait, le centralisateur restreint aux parties régulières n'est pas forcément plat. Quand on n'est pas plat, on ne peut pas descendre. On ne peut pas faire des appareils de descente. Donc il faut mettre un I, quelque chose qui est plat à l'intérieur du centralisateur. On va faire descendre par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait consistant parce que on prend I, donc c'est un sous-schéma plat de la restriction du centralisateur à la partie régulière. Et quand on fait le quotient, parce qu'à cause de la différence avec le centralisateur lui-même, ce n'est pas un espace algébrique, mais ça devient un champ de Lie même forte. En général, ce quotient régulier, comme il est conçu par Descendre, il est lisse, aussi bien lorsque M est lisse. Mais dans le cas de G sur G, oui, T sur W, il est lisse seulement si G est simplement connexe. Donc, ici, on a le G rep divisé par G qui est toujours lisse au-dessus de celui-là, qui n'est pas lisse. Donc, en quelque sorte, ici, le quotient, dans ce cas-ci, le quotient invariant, c'est l'espace sous-jacent à ce champ de Lyman-Ford qui est lisse. Donc, ça, c'est l'exemple du cas de conjugaison. Cet exemple-là, c'est typiquement le cas d'espace algébrique, d'espace symétrique. Ou on peut dire, dans le cas de constant Rallis, on considère une involution sur l'algèbre de Lie, et puis le parti plus 1 agit sur le parti moins 1, et les orbites, on peut calculer le quotient invariant. Donc ça, c'est connu, c'est le constant Rallis. Mais on peut aussi, on doit calculer ce quotient régulier. Donc là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est lisse, mais qui ressemble un peu à ça. Donc, parfois, il y a des recoulements à deux feuillets, parfois il peut y avoir quatre feuillets, c'est compliqué, mais globalement, c'est le même principe que dans ce cas-là. Et ça pourrait permettre à comprendre ce qu'on appelle la fibre de Hitchin pour le groupe de Lyrienne. Il n'y a pas vraiment de groupe de Lyrienne, mais enfin, c'est l'appellation usuel dans ce cas symétrique, dans le cas agissant sur P. Bon, il y a un autre cas qui est intéressant, je n'ai pas mentionné, mais dans le cas, au début, j'ai mentionné le cas de l'interorbital d'une fonction de Hecke dans le groupe Lie-Pierre-Dieck. Donc on a une fonction de Hecke qui n'est pas la fonction de G de O. Comment faire apparaître la fonction de Hecke dans cette machine? Donc là, ça fait apparaître parce qu'on doit remplacer le groupe G par le monoïde canonique, l'enveloppe de Weinberg. L'enveloppe de Weinberg, c'est la structure algébrique qui induit quasiment le déconstruction de Cartan. Et de nouveau, même lorsque G est simplement connexe, donc à l'intérieur, on a le G rep mode G est isomorphe à T sur W, mais quand on va au bord, là, il y a de plus en plus de feuillets. Et le nombre de feuilles, là, ça correspond à des choses comme des éléments de courbe secteur dans le groupe. Parce que là, c'est des constructions de secteur de Steinberg, et Steinberg, il y a un choix des éléments de courbe secteur. Donc là, ça c'est des cas donc qui est plus compliqué que le cas d'adjoint. Dans le cas d'adjoint, on voit bien que G et mode G, les deux quotients sont les mêmes. C'est très gentil. Mais en général, les quotients ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas encore trop loin. Vous voyez que c'est les mêmes copies, mais on recolle. On coule les uns des autres de la façon. Mais les choses se corsent sérieusement lorsqu'on considère les cas où en fait le morphisme P n'est pas plat. Dans tout ce cas, le morphisme P, les fibres sont de même dimension. Donc dans chaque fibre du morphisme quotient, il y a un infini d'orbites régulières. Et en général, ce n'est pas le cas. Donc le cas typique, c'est le cas de Il y a un cas qui inspire beaucoup, c'est le cas du schéma commutant. Donc on va prendre le M, c'est l'ensemble de X, Y dans GLN au carré, tel que qui commute. Donc ici, on a l'axiome de G. Un J part diagonalement. Donc là, en général, on ne le sait même pas, mais au cas dont je viens d'énoncer, qui est loin d'être trivial, parce que dans ce cas-là, on a M mod G, le cosinus invariant, c'est la même chose que T fois T sur W. Et ça, ce n'est pas reconnu en général. Donc, à GNLN, on s'est démontré. En tout cas, donc ça, on voit que c'est la même chose que A2 fois N divisé par Sn. Donc, ici, le groupe de Weiss est le groupe symétrique. Et donc, ça, c'est le schéma de Chow des cycles de dimension 0 de longueur n sur A2. Donc le quotient invariant dans ce cas chemin Lindbergh. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de c'est singulier, c'est typique de singularité. Et ici, on a, par ces conditions générales, on a quelque chose de M-REP, mode G, c'est un espace algébrique. Qui est lisse. Et dans lequel on a en fait, on ne comprend pas complètement. Donc ça, on a la conception générale, mais on n'a pas encore vraiment comprend complètement qu'est-ce que c'est. Mais au moins, on a un ouvert de MREC. On a ouvert cyclique dans MREC, qui consiste à des XY commutants tels qu'ils existent dans M, tels qu'il existe V dans l'espace vectoriel dimension N, tel que V est un vecteur cyclique. Quand on a deux opérateurs linéaires commutants, c'est l'espace vectoriel devient un module sur du polynôme à deux variables. Et on suppose que ce module est cyclique. Si elle est cyclique, il est certainement régulier. Mais régulier, ce n'est pas forcément cyclique. Donc cyclique, ça fait une partie régulier. Donc on a le M cyclique à l'unité de G. Et c'est assez facile de voir, donc ça vient ensemble des travaux de Nakajima. Le quotient régulier de la partie cyclique, c'est exactement le schéma d'Hilbert. Des sous-schémas de longueur n de A2. Donc du coup, vous voyez que ce quotient régulier, qui est construit comme en général, il l'admet à ouvert. Qui lui a une résolution singularité du quotient invariant.
C'est A2 ? C'est
A2. A2, oui. Oui. Donc, on ne peut pas démontrer beaucoup de en général, mais au moins, je pense que tu peux démontrer en général ce morphisme de MREC sur G vers G, il satisfait la partie existante de critères évaluatifs pour propreté. Donc, on peut espérer, si on pose des conditions de stabilité raisonnables, on trouvera des résolutions de singularité comme celui du schéma Lindbergh. Donc, ça vérifie la partie d'existence de critère du critère évaluatif. Voilà. Donc autre chose qui est donc ça c'est bon, la géométrie de ce quotient est vraiment intéressant en soi. Donc nous avons moi et mes collaborateurs étudié beaucoup d'exemples. On n'a pas encore sauf celui-là qui allait un peu plus général, les autres sont plutôt des résultats partiels qui concernent des cas particuliers. Mais il semblait un objet tout à fait intéressant à étudier. Mais au début, pourquoi on veut introduire cet objet? Parce que c'est là où vit le centralité régulier. Donc le centralité régulier ne vit vraiment sur ce quotient. Il ne vit pas sur le quotient invariant.
Et Chow N, c'est quoi?
Chow N, c'est des cycles de dimension.
Oui, mais comme objet,
c'est le quotient invariant.
Mais c'est un schéma,
C'est un schéma, oui. C'est un schéma affine. C'est des...
Des invariants, là-dedans.
Oui, des fonctions à deux invariants, mais les invariants, en soi, sont de SN.
C'est une double barre.
C'est une double barre.
Oui, c'est une double barre, oui. Voilà, donc...
Donc ça, c'est singulier.
Ça, c'est singulier. Et ce MREC sur G, ça fait une résolution de singularité en quelque sorte, mais ce n'est pas un schéma. C'est beaucoup trop gros. Si vous réussissez, il faut l'enlever.
Et Hilbert N, lui, c'est 10.
Pardon ?
Hilbert N, c'est 10.
Oui, MREC, G, c'est 10.
C'est une résolution de singularité.
Oui, oui. Voilà. Et on pourrait se demander ce que c'est J. Il y a une question que je voulais aborder, mais je n'ai pas le temps, c'est que dans le cas de adjointe, ce qui était fondamental, c'est qu'on peut avoir deux descriptions du centre régulier, dont l'une est par des centres, donc ça c'est définition, et l'autre c'est parce que le J, par le revêtement caméral. Donc là, ici, la partie du thème chevalet, la barre de chevalet, c'est le quotient T par W. Donc, essentiellement, on prend le tore constant et puis on fait sur des centres sur T sur W. Avec des modulations assez subtiles, mais c'est essentiellement cela. Donc, maintenant, on a un quotient régulier, le MREC sur G, et on a un schéma en groupe. Donc, considère c'est un tore, génétiquement. Est-ce que ça existe un revêtement caméral qui peut, sur lequel on peut essayer de développer cette description qui est due à Donaghy et Guess-Gorry dans ce cas. Et en fait, c'est assez curieux, c'est que ce revêtement caméral existe dans tous les cas que je connais, mais c'est extrêmement dur de démontrer en général. En fait, dans ce cas de schéma Hilbert, on a un revêtement caméral de Hilbert. Il y a le truc évident dans le cas où, au point générique, on prend un ordre entre les points, et cela s'étend en un revêtement plat de schéma d'Hilbert, mais qui est vraiment très loin d'être un terme facile, c'est un terme de Heimann, que je crois très peu de gens vraiment comprennent en démonstration. Mais donc déjà ce cas de base est extrêmement difficile. Et c'est vraiment une question importante si ça ne marche pas en général, quelle est l'hypothèse qu'il faut mettre pour l'existence de ce revêtement caméral sur le quotient régulier. Donc une fois qu'on a cette description de quotient régulier, on a ce revêtement caméral, et si on a en plus la classe du gerbe, une classe de gerbe, on aura toutes les données structurelles pour décrire cette phénoménologie en général. Donc c'est ce dont je vais développer dans les exposés suivants. Voilà. Merci. Pardon ?
Dans le cas d'action hyperbolique, il y a GL sur A2.
Oui.
Le quotient, là, enfin, il faut introduire finalement, c'est parce que la fibonacci correspondante, du régulier.
Donc là, il n'y a pas vraiment de fibre de Hitch, enfin le centralisateur est trivial. Mais
Oui. Mais est-ce que
ce n'est pas une autre chose? Enfin, tu peux très bien décrire fibre de Hitch dans ce cas-là. Mais souvent, c'est des morphismes. Enfin, il y a un cas, je ne sais pas, ça c'est le cas plus facile, mais le cas qui est proche. mais qui est vraiment bien décrit, c'est le cas de Jacques Rallis. Oui, c'est de GLM-1 agissant sur GLN. Et dans ce cas-là, donc, c'est un peu pareil. Et dans ce cas-là, le film Hitchin, c'est morphisme petit. Celui-là, c'est petit aussi. Non. Dans le cas de tu vois, dans le cas de schéma Lindbergh, c'est très clair. Quand on a un sous-schéma dimension 0 dans A2, le centre est régulier et les éléments inversibles de ce schéma dimension 0. Tu as un sous-schéma Z de A2, donc OZ étoile, et le centre est régulier. Mais cela, tu ne peux pas définir à partir du cycle. Le cycle, tu n'as pas le schéma, tu as juste les points de multiplicité. Et dans ce cas-là, ça ne descend pas. Mais dans tous ces cas où le morphisme, ce morphisme doit être lisse pour que ça descende. Mais.
En général, est-ce que déjà si M règle surjecte sur.
Ben justement, ça surjecte parce que ça vérifie le critère de l'existence.
Mais en général, c'est
oui. Oui, c'est en général. Oui. Mais en fait, c'est M règle, en quelque sorte, ça devait être considéré comme. Un avatar de l'espace projectif. Donc, dans l'espace projectif, on a l'ensemble de GM sur A1, donc le MREC, c'est l'ensemble des droites. Donc, c'est si on a sur qu'un compte, on prend les orbites régulières, ça fait un espace algébrique, ou au pire, un échange de Lyman fort au-dessus du quotient invariant. Et il vérifie la partie d'existence. J'aimerais bien trouver l'astuce pour faire l'ouvert cyclique, mais je ne trouve pas encore. Ce matin, Cédric m'a donné des informations qui semblent aller dans le sens contraire, mais bon, faut pas désespérer. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.